Je voudrais saluer tout le monde, ceux qui sont présents et ceux qui nous suivent en visio. Alors, le système de relations professionnelles au Sénégal, en introduction, ce que l'on peut dire, c'est que toute réflexion sur ce système s'avère impossible si on ne prend pas en compte, bien sûr, les éléments qui sont susceptibles d'influer sur l'historicité du système d'abord et sur l'actualité de ce système. Ces événements, ces éléments, ce sont des éléments historiques liés d'abord au lien colonial, bien sûr, puisque énormément de choses nous a été léguées par la France. Éléments historiques par rapport au fait que la construction syndicale au Sénégal, comme dans les autres pays d'Afrique noire, est une construction qui entretient un lien avec l'activité de certains syndicats français à l'époque, entre 1900 et 1960, particulièrement la CGT et Force ouvrière. Les éléments également, c'est l'influence des normes de l'OIT qui, depuis l'indépendance du Sénégal en 1960, ont énormément joué dans le cadre d'une structuration des relations professionnelles, particulièrement avec le dialogue social. Les éléments qu'il faut prendre en compte dans la réflexion, c'est la prégnance, l'importance de l'économie informelle qui également bouleverse un peu ce système de relations professionnelles, nous y reviendrons. Également, parmi ces éléments, le niveau des acteurs, l'ajustement structurel qui pendant 30 ans a beaucoup marqué l'économie sénégalaise et on constate que ce système de relations professionnelles a été réorienté justement par les politiques d'ajustement structurel. Dernier élément, enfin, c'est que l'économie sénégalaise est particulièrement caractérisée par des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. La grande industrie existe, très importante, et cet élément, la prégnance des PME et des PMI également va nécessairement avoir une répercussion sur le système, sur la construction du système, sur le profil de ce système. Alors, ce qu'on note également en introduction, c'est qu'il y a une volonté très ferme de transformation de ce système depuis une trentaine d'années, avec une inversion et un pluralisme des sources. Il y a un phénomène de participation, un phénomène de concertation, etc. Pour être plus simple, nous allons jeter un coup d'œil à ce système en partant de deux éléments, les acteurs du système et puis le contenu, un peu le droit applicable au système. Alors d'abord, les acteurs, c'est le tripartisme. Les acteurs, c'est l'État. Les acteurs, ce sont les syndicats. Syndicats de travailleurs et syndicats d'employeurs. Il faut peut-être essayer d'avoir une vue de l'actualité de ces acteurs pour pouvoir comprendre le contenu de la négociation, le contenu de la participation et surtout le contenu de la production normative. Les syndicats d'abord, deux travailleurs, 20 centrales syndicales à peu près, une centaine de syndicats de branche, des syndicats d'entreprise sur lesquels aucune statistique n'existe. Alors, le syndicalisme, de manière générale, se caractérise au Sénégal par le faible taux de syndicalisation. C'est un élément important. Aux dernières élections de représentativité syndicale au niveau national, le nombre de votants tournait autour de 72 000 votants. Pour des élections de représentativité des centrales syndicales, c'est très peu. Il y a, en 1957, alors que le Sénégal était encore sous domination française, déjà, les documents nous montrent que le syndicat le plus important avait déjà 150 000 adhérents, et les adhérents syndicaux au Sénégal en 1957 étaient plus de 450 000. Aujourd'hui, 2020, lorsque à des élections aussi importantes, il n'y a que 72 000 votants, ça veut dire que le taux de syndicalisation est faible. Cette faiblesse du taux se répercute nécessairement sur la légitimité de ces syndicats, même au niveau national, légitimité d'abord à participer à la négociation, mais légitimité à avoir également une vocation politique, mais ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Cette légitimité, ce manque de légitimité quant à la population des syndiqués est pourtant relativisée parce que les syndicats se battent beaucoup quand même pour un certain nombre de questions touchant à l'intérêt général, particulièrement pour tout ce qui touche le maintien des services publics. Ces centrales syndicales se sont beaucoup battues pour lors des questions touchant à la privatisation des sociétés d'eau et d'électricité. Et cette implication concernant ces questions d'intérêt général, mais aussi la cherté de la vie, leur donne une certaine légitimité, alors que sur le plan purement quantitatif des adhérents, le taux de syndicalisation est particulièrement faible. Il y a également, toujours en parlant de ces syndicats de travailleurs, tout le travail de structuration qui a commencé à être fait depuis quelques années, avec des modifications importantes du Code du travail, les articles L85 et suivants, qui ont enfin permis au Sénégal d'organiser des élections de représentativité au niveau national pour non seulement sélectionner, identifier les centrales qui pouvaient avoir une certaine légitimité, non seulement à la négociation, mais une légitimité à représenter les travailleurs, mais également donner une certaine légitimité aux accords qui vont ressortir de ces négociations et de cette participation. Malgré tout, l'acteur syndical, même au niveau national et interprofessionnel, se caractérise par une certaine division syndicale. 20 centrales pour un, je n'ose pas dire un petit pays, mais 20 centrales syndicales pour le Sénégal semble excessif. Le BIT, comme une certaine doctrine, appelle à une unification syndicale. Personnellement, je pense qu'il faut s'en méfier, puisque l'unification syndicale, d'un point de vue historique, en tout cas, si on retourne vers les années 1960, il faut beaucoup s'en méfier. On se rappelle qu'en 1960, au Sénégal, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, l'entreprise de domestication du syndicalisme par les pouvoirs politiques, c'était justement l'unification du mouvement syndical, une centrale syndicale unique, puisque l'idée était que lorsqu'il y avait une seule centrale syndicale, il était beaucoup plus facile pour les pouvoirs publics de le domestiquer, ça veut dire en fin de compte de l'affilier politiquement. Alors, faiblesse, division, unification, ce qui caractérise également le mouvement syndical, même au niveau national, c'est l'absence d'idéologie syndicale. Contrairement à beaucoup de pays, les centrales syndicales ne sont pas au Sénégal construites autour d'idéologie, socialisme, libéralisme, etc. Il n'y a pas ce profil idéologique, même si historiquement la centrale la plus importante, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, est historiquement affiliée au Parti socialiste, qui a dirigé le pays pendant 40 ans, avant que leurs relations ne se brouillent lors justement des programmes d'ajustement structurel il y a 30 ans. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que contrairement à la France, où les centrales CGT, forces ouvrières, etc., ont un profil politique et idéologique, au Sénégal, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, le syndicalisme au Sénégal, même au niveau professionnel, il faut le mettre en lien avec l'économie informelle. De plus en plus, cette économie informelle est en train de se structurer d'un point de vue syndical, et les centrales syndicales existantes ne sont pas tout à fait étrangers à ce mouvement, puisque le faible taux de syndicalisation qui est observé dans l'économie formelle a poussé ces centrales syndicales à se rapprocher de l'économie informelle en se disant que de toute façon, lorsque dans un pays 70% des actifs sont dans l'économie informelle, peut-être qu'un taux de syndicalisme élevé est impossible sans que ces centrales syndicales n'investissent l'économie informelle. C'est pourquoi de plus en plus, des syndicats existent dans l'économie informelle, aussi bien les travailleurs routiers, la boulangerie, etc., etc. Alors, deuxième acteur au-delà des syndicats de travailleurs, c'est l'État. Quelle est la politique de l'État au Sénégal en matière de relations professionnelles? L'État de plus en plus incite à la participation, à la concertation, peut-être parce que l'État du Sénégal, le gouvernement, les pouvoirs publics ont pris conscience que le mouvement syndical s'exprime soit par une participation organisée, soit par une participation politique, affiliation au parti politique, soit par une participation violente, grève, conflit, etc. La logique des pouvoirs publics semble être d'exclure les deux autres formes de participation et de choisir la troisième, qui est beaucoup plus pacifique. On a l'impression que la logique des pouvoirs publics au Sénégal, à travers la négociation, à travers le dialogue, et de surtout de rechercher la stabilité économique et la stabilité politique, on a l'impression que ces pouvoirs publics ne sont pas véritablement intéressés par les questions de transformation sociale, ça veut dire l'évolution des règles matérielles du droit du travail, mais ça, on y reviendra. Pouvoir public également, comme garant de tous les instruments internationaux ratifiés, l'État est garant du droit du travail lui-même, et l'État semble être garant au Sénégal de l'intérêt général. Chaque fois, justement, que cet intérêt général semble être en contrariété avec les intérêts du monde du travail, et la question de la retraite à 65 ans au Sénégal a montré ce conflit qui pouvait exister entre l'État comme acteur et entre les autres acteurs du monde du travail, syndicats d'employeurs et syndicats de travailleurs, puisque au Sénégal, un accord national interprofessionnel a repoussé l'âge de la retraite de 55 ans à 60 ans. Les centrales syndicales, à un certain moment, ont commencé à soulever l'idée de reculer encore l'âge de la retraite à 65 ans. L'État du Sénégal s'y est absolument opposé au motif qu'une telle mesure pourrait être portée atteinte à l'insertion des jeunes au monde de l'emploi, ce qui peut-être nous montre aussi qu'au-delà de tout, l'État peut avoir une certaine conception de l'intérêt général qui est différent de l'intérêt du monde du travail, ça veut dire de l'intérêt des travailleurs et des employeurs de manière générale. Cela nous montre aussi qu'au Sénégal comme ailleurs, les syndicats, même au niveau national et interprofessionnel, restent peut-être des groupements d'intérêts. L'intérêt d'une catégorie, les intérêts catégoriels, c'est bien les intérêts de la catégorie des travailleurs, et l'intérêt de la catégorie des travailleurs est peut-être quelque chose à différencier de l'intérêt général, et cette question sur la retraite a peut-être été un indicateur de ce point de vue. Est-ce que les acteurs sont indépendants? Est-ce que l'acteur État entretient des relations tout à fait autonomes avec l'acteur syndicat de travailleurs? C'est ce qui est proclamé, c'est ce qui est réclamé en tout cas par les centrales syndicales de travailleurs. Ce qu'on constate au Sénégal, c'est qu'il n'y a pas d'entrisme politique. Les syndicats, y compris les centrales, n'ont pas une idéologie politique, et il est rarissime au Sénégal que des leaders de centrales syndicales deviennent ministres ou participent d'une quelconque manière à un gouvernement. Il semble y avoir, théoriquement en tout cas, une certaine séparation entre l'État comme acteur et entre les centrales syndicales, comme si les dirigeants des centrales syndicales avaient compris qu'entrer dans un gouvernement pouvait être pour eux un signe d'illégitimité ou pouvait entraîner dans le futur une certaine déshérence de leurs adhérents. Il n'y a pas, il faut cependant constater que historiquement, il y a un lien entre l'État et la centrale la plus importante, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, qui, comme je le disais tout à l'heure, a été affiliée au Parti socialiste pendant près de 40 ans, avant que les programmes d'ajustement structurel vers les années 1970 n'imposent une flexibilité du droit du travail de plus en plus importante. Et c'est lors de cette flexibilisation du droit du travail que le lien qui existait entre cette centrale syndicale et l'État du Sénégal a été rompu. Cette centrale, dans le but de protéger les travailleurs, bien sûr, a commencé à être un véritable organe de contre-pouvoir sur le plan national. État, centrale syndicale de travailleurs, c'est aussi l'action de l'État du Sénégal à provoquer des scissions au niveau des centrales syndicales. Cette Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a connu une scission il y a quelques années pour créer ce qui a donné naissance à une autre centrale au niveau national et interprofessionnel. Et on sait que l'État du Sénégal n'est pas tout à fait étranger à cette scission, puisque, encore une fois, cette centrale commencer à jouer véritablement le rôle d'un contre-pouvoir. On sait également que l'État suscite la création de certaines centrales dans certaines branches d'activité particulièrement conflictuelles, etc. Dernier acteur, ce sont les employeurs, les syndicats d'employeurs, idéologiquement beaucoup plus avancés que les centrales de travailleurs, que les syndicats de travailleurs. Il n'y a que 3 syndicats représentatifs au niveau national du côté des employeurs. Ça veut dire que aussi que la possibilité pour ces employeurs de négocier est beaucoup plus importante puisqu'on ne constate pas une dispersion syndicale comme on l'a constaté du côté des travailleurs. C'est les employeurs, les syndicats d'employeurs semblent également être beaucoup plus aptes sur le plan technique à la négociation. Les questions qui sont soulevées par ces syndicats d'employeurs par rapport au droit du travail de manière générale, par rapport à la protection sociale, ces questions semblent être beaucoup plus pertinentes. Et lors des négociations, ces syndicats d'employeurs sont épaulés, sont aidés par des techniciens que ne semblent pas avoir les syndicats de travailleurs. Alors, ce sont ces 3 acteurs qui sont là au Sénégal, l'État qui historiquement est dans une dynamique de domestication du mouvement syndical lui-même, domestication qui prend sa source dans cette croyance que l'État a effectivement, que le mouvement syndical est après tout une force sociale et une force politique qu'il faut contrôler. Toute la trajectoire depuis 1960 et démontre cette volonté de domestiquer le mouvement syndical, volonté qui prend aujourd'hui la forme, je l'ai dit tout à l'heure, d'une participation, d'une concertation avec le monde syndical, même si parfois le conflit existe comme, par exemple, concernant la retraite. Acteur syndical, travailleur, c'est la division syndicale, recherche d'une unification syndicale sur laquelle je suis tout à fait perplexe. C'est également la faiblesse de l'adhésion syndicale qui nécessairement produit un certain nombre de répercussions sur la légitimité de ces syndicats à la négociation, mais également la légitimité par rapport tout simplement à la revendication politique. Ces acteurs sont là. Le droit a beaucoup contribué au Sénégal à structurer le système de relations professionnelles, aussi bien les normes internationales que les normes internes. Il y a un renforcement continu de l'enclave juridique, ça veut dire des moyens, des instruments pour la structuration des relations professionnelles. Le Sénégal a ratifié de ce point de vue la plupart des normes internationales, la Convention 87, la Convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, ratifiée en 1961, la Convention numéro 144 sur les consultations tripartites, la Convention 135 qui concerne les représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder dans l'entreprise, qu'il faut leur accorder dans l'entreprise, la Convention 87, je l'ai dit tout à l'heure, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Ces normes internationales ont beaucoup aidé le Sénégal à aller dans le sens de l'instauration d'un dialogue social, d'une participation plus importante, d'une concertation, puisque les experts du BIT, de manière permanente, entretiennent un dialogue avec l'État du Sénégal pour adapter sa législation interne à ses dispositions, à ses normes internationales. Sur le plan interne, justement, il faut noter l'adoption de la Charte nationale sur le dialogue social du 22 novembre 2002. C'est un document particulièrement important qui institue un cadre et des mécanismes de dialogue visant à permettre un dialogue permanent et surtout à promouvoir la croissance, l'emploi, la protection sociale et la solidarité. Cette charte, il faut le dire, s'applique au Sénégal aussi bien dans les secteurs publics, parapublics et privés, aussi bien dans l'économie moderne que dans l'économie informelle. Cette charte également crée les conditions d'un dialogue social éclairé, d'un dialogue au niveau de l'entreprise, au niveau des branches d'activité et d'un dialogue au niveau national. Il y a l'installation au-delà de la charte nationale sur le dialogue social, la signature, la négociation d'un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique entre l'État du Sénégal, les centrales syndicales de travailleurs et les centrales d'employeurs. C'est un pacte qui vise surtout la croissance économique et la stabilité sociale qui a été voulu par l'État du Sénégal, négocié sous la houlette de l'État du Sénégal et, en fin de compte, qui est entré en vigueur. Au Sénégal, la structuration, c'est également des instruments de dialogue, de consultation et de participation. On peut citer le Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale, le Comité consultatif national d'hygiène et de sécurité sociale, la coordination nationale des comités d'hygiène et de sécurité sociale. Dans le même cadre, on a le Comité national du dialogue social, etc. Ce sont des éléments, ce sont des instruments qui sont là pour promouvoir, j'y reviendrai tout à l'heure, la négociation et la concertation. Alors, là, on a un peu campé la structuration, les structures des relations professionnelles au Sénégal, les acteurs, mais également les instruments normatifs, dispositions internationales, instruments internes concernant le dialogue social, un certain nombre d'instruments de participation, de concertation. On peut s'interroger maintenant sur ce que tout cela a donné. Est-ce que le système est producteur de normes? Est-ce que le système est producteur de normes de qualité? Est-ce que la concertation, la participation, qui sont les finalités recherchées depuis une trentaine d'années, est-ce que ces finalités sont atteintes? C'est le contenu maintenant du système de relations professionnelles. Au-delà des acteurs, il faut réfléchir sur ce second aspect. S'il faut faire un bilan, le bilan, c'est que la négociation interprofessionnelle est très intense, mais elle est très peu productrice de règles du droit du travail. La négociation de branches est inexistante au Sénégal, en léthargie. La négociation d'entreprise reprend du terrain, mais elle est freinée dans son élan, justement, par la léthargie de la négociation de branches, puisqu'il y a un lien entre la négociation d'entreprise et la négociation de branches. Lorsque la négociation de branches ne fonctionne pas correctement, il est évident que la négociation d'entreprise va s'en ressentir. De manière générale, il y a un dynamisme de la concertation et de la participation au niveau national et interprofessionnel, un dynamisme, mais encore une fois, cette négociation aboutit sur très peu de normes susceptibles de produire une transformation sociale, ça veut dire très peu de normes relatives aux règles matérielles du droit du travail. Alors d'abord, le primat de la concertation et de la participation, en fin de compte, c'est le but recherché par l'État du Sénégal lui-même, le gouvernement, ça veut dire la stabilité sociale, la fin des troubles politiques, la fin des grèves au niveau national, la fin des conflits. L'État du Sénégal, très intéressé par cette stabilité économique et cette stabilité politique, a beaucoup fait pour la concertation et la participation. La paix sociale est une condition de productivité. Il y a une certaine légitimation de l'action publique, la recherche de l'atténuation des contestations et surtout une recherche de l'adhésion aux politiques publiques de l'État du Sénégal. Il y a également une appropriation des objectifs de l'entreprise. De ce point de vue, on peut remarquer une action très large des centrales syndicales au Sénégal. Ce sont ces centrales syndicales qui, en réalité, après une longue lutte, ont fini par obtenir la gestion des institutions de prévoyance sociale, particulièrement la Caisse de sécurité sociale et l'institution de prévoyance retraite, alors que pendant plusieurs décennies au Sénégal, cette gestion et d'une gestion publique assurée par l'État du Sénégal à côté du patronat. Sur le plan international, ce sont les centrales syndicales qui participent aux réunions de plusieurs instances de l'OMC, de la Conférence internationale du travail, les accords de Cotonou, le NEPAD, etc. On a cité tout à l'heure la participation des centrales syndicales au Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale. On sait que ce conseil consultatif rend obligatoirement un avis concernant tous les projets et toutes les propositions de loi concernant le travail sur la fixation du salaire minimum. Malheureusement, ce conseil, depuis quelques années, ne fait plus un travail technique relatif à des études sur les conditions économiques générales. Également, ce sont les représentants des travailleurs au niveau national qui s'activent et qui sont membres du Conseil consultatif national d'hygiène et de sécurité. Ils sont également membres de la coordination nationale des comités d'hygiène et de sécurité au travail. Les centrales syndicales d'employeurs sont également très dynamiques et participent énormément. C'est le Conseil national du patronat et particulièrement la Confédération nationale des employeurs du Sénégal qui sont représentés dans les organes délibérants de nouveaux organismes, de nombreux organismes à vocation économique et sociale, le comité de pilotage des objectifs du millénaire, le comité de coordination du Millennium Challenge Account, qui est en réalité un instrument de coopération avec les États-Unis d'Amérique, le Conseil sénégalais des chargeurs, l'Office national de la formation professionnelle. Bref, il y a, cela est évident, une concertation qui est là, il y a une participation qui est là. Les syndicats au niveau national et interprofessionnel ont revendiqué et ont acquis le droit de participer à la définition de ce qu'est l'intérêt général au Sénégal, mais également de participer à la définition des politiques publiques au Sénégal, puisque ces instruments que j'ai cités tout à l'heure sont des instruments de confection des politiques publiques de manière générale et des politiques économiques, et les centrales syndicales, les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont véritablement impliquées. C'est pourquoi on parle d'un primat de la concertation et de la participation. Quels sont les résultats de cette concertation et de cette participation? Ce sont des trêves sociales qui ont été négociées par l'État du Sénégal et que l'État du Sénégal a obtenues. Des grèves générales au Sénégal, il n'y en a pas eu depuis plusieurs années. C'est la participation à l'élaboration de documents de politique publique, au-delà même du monde du travail. C'est également des déclarations d'orientation stratégique. La gestion collective d'institutions sociales, j'en ai tout à l'heure parlé. Des insuffisances à ce niveau, oui, c'est le défaut d'articulation entre les acteurs au niveau du dialogue social, au niveau de la participation. On installe des comités du dialogue social au niveau national, au niveau des branches d'activité et au niveau des entreprises. Alors qu'à certains niveaux, des instruments de négociation et de dialogue existaient déjà, particulièrement la représentation traditionnelle du personnel. Il n'y a pas une articulation entre l'activité de ces nouveaux instruments, comité de dialogue social au niveau national, au niveau des branches et au niveau des entreprises, et les instruments traditionnels qui existaient du dialogue, et cela a pu créer quelques difficultés. Parfois, il y a des problèmes d'articulation entre l'action de l'inspection du travail et l'action de ces nouveaux acteurs de dialogue social, comme en matière de conflits collectifs. En matière de conflits collectifs, l'administration du travail au Sénégal a historiquement joué un rôle très important de médiation, un rôle très important de conciliation. L'articulation également entre l'action de l'administration du travail et ces nouveaux acteurs, ces nouveaux instruments, cette articulation est loin d'être parfait. Est-ce que le système de relations professionnelles au Sénégal, les instruments de dialogue, de concertation et de négociation ont participé à une transformation sociale? Ça veut dire à produire des règles susceptibles, cette fois-ci, d'avoir un impact sur le quotidien des salariés? La réponse est non. Autant, le système de relations professionnelles au Sénégal, depuis une vingtaine d'années, a beaucoup insisté sur la participation, la négociation avec l'installation de nouveaux acteurs, de nouveaux instruments. Autant on se rend compte, par contre, que la négociation, le dialogue, sont très peu producteurs de normes concernant les règles du travail. même si cela n'est pas tout à fait vrai. Ce dialogue, je commence par là, a produit cependant des normes affectant le quotidien des travailleurs. Mais c'est très insuffisant ce que je veux dire. La réforme récente en 2019 de la Convention collective nationale interprofessionnelle après plusieurs années de négociations quand même doit être soulignée comme quelque chose de très positif, entrant dans le cadre justement de cette transformation sociale dont je parlais tout à l'heure. La négociation d'un accord national et interprofessionnel sur la retraite à 60 ans, qui a repoussé la retraite de 55 ans à 60 ans, est quelque chose également de très positif, qui est le résultat de cette négociation au niveau national et interprofessionnel. Mais au-delà de ces deux exemples, on peut citer également, et pour terminer, la reprise il y a quelque temps des travaux de la Commission nationale chargée de revaloriser les salaires minimums et les catégories professionnelles au niveau des branches d'activité. C'est quelque chose également qu'il faut souligner en termes de redynamisation de la négociation au niveau national et au niveau interprofessionnel. Mais au-delà de ces trois exemples, convention collective nationale et interprofessionnelle renégociée en 2019, accord national sur la retraite à 60 ans dans le secteur privé, on peut citer également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux qui ont repris de la commission mixte paritaire concernant les salaires. Et quatrième élément positif aussi, la négociation de la convention État-employeur pour l'emploi des jeunes. Ces quatre exemples montrent quand même un dynamisme au niveau national et interprofessionnel. Et ces quatre exemples montrent que cette négociation est susceptible d'aboutir sur des règles qui transforment le monde du travail. Mais à mon avis, c'est très peu suffisant. On a l'impression que la négociation est plus une négociation qui produit des chartes, des règles de stabilité nationale, de stabilité sociale. On a l'impression que la négociation au niveau national et interprofessionnel est une négociation qui ne touche pas beaucoup le quotidien des travailleurs, à l'exception de ces quatre instruments que j'ai signés tout à l'heure. Cette négociation, selon nous, ne s'intéresse pas beaucoup à des questions essentielles qui pourtant sont là et qui ne semblent pas intéresser les négociateurs. Ces questions essentielles, c'est par exemple le financement de la protection sociale, de la formation professionnelle continue. L'employeur au Sénégal n'a aucune obligation à une formation professionnelle continue des travailleurs. On connaît toute l'importance de cette formation professionnelle continue dans la conservation de l'emploi, surtout lorsque l'entreprise est une entreprise qui est en crise. Cette négociation interprofessionnelle gagnerait beaucoup, comme elle l'a déjà fait pour l'emploi des jeunes, à réfléchir sur les mécanismes de financement de la formation professionnelle permanente, de la formation professionnelle continue, ce qu'elle ne fait pas. Cette négociation interprofessionnelle gagnerait beaucoup à réfléchir sur les questions de retraite, la réorientation des pensions, la revalorisation des pensions de retraite. La question du télétravail reste une question entière quand même au Sénégal, puisque jusqu'au moment où nous parlons, le télétravail au Sénégal n'a pas un ancrage juridique, n'existe nulle part, même si depuis la COVID-19, des ordonnances favorisent le télétravail, mais l'ancrage juridique du télétravail n'existe pas encore au Sénégal. L'épargne salariale est une question importante que les partenaires au niveau national et interprofessionnel devraient prendre en compte, l'intéressement, etc. Il n'y a absolument rien. Toutes les questions relatives à la sécurité sociale, à la santé, à la sécurité, particulièrement la formation en matière de santé et en matière de sécurité, c'est une question qui aurait pu, encore une fois aussi, alerter les négociateurs au niveau national et interprofessionnel. L'extension de la protection sociale est au Sénégal aujourd'hui une problématique claire. Protection sociale qui aujourd'hui est axée sur les frontières du salariat, la qualification de travailleurs salariés. La question de l'extension de la protection sociale se pose avec beaucoup d'acuité au Sénégal. Et il me semble que justement, une négociation au niveau national et interprofessionnel qui se voudrait dynamique devrait se saisir de cette question. La question même des branches d'activité, la question même des secteurs d'activité est réglée au Sénégal depuis plus de 65 ans. On est encore dans la classification coloniale. Les branches d'activité et les secteurs d'activité aujourd'hui au Sénégal tels qu'ils apparaissent ont été hérités de la puissance coloniale. Là également, la négociation interprofessionnelle, l'activité au niveau national et interprofessionnel est interpellée sur toutes ces questions. Il n'y a pas une approche technique des règles du droit du travail. L'approche est beaucoup plus politique, l'approche est beaucoup plus stratégique, l'approche est plus axée sur la concertation et la participation, mais le droit du travail, me semble-t-il, doit être quand même un instrument de transformation sociale. Le droit du travail, on doit quand même en avoir, quel que soit Alpha, une approche instrumentale. Lorsque le système de relations professionnelles n'arrive pas véritablement à produire des règles de droit du travail susceptibles de bouleverser ou de faire évoluer le quotidien des salariés, et cela veut dire, en fin de compte, que le système de relations professionnelles est encore assis sur une classification des sources du droit du travail qui est une classification historique. C'est la classification qu'on a héritée du colonisateur ou les sources étatiques. Les sources de la Constitution, des engagements internationaux, de la loi et du règlement occupent la place la plus importante dans la production des normes du travail. Il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on avait promis autre chose en installant et en bouleversant l'ensemble du système de protection sociale, du système de relations professionnelles. 30 ans après, on se rend compte que certains objectifs sont atteints. On se rend compte, malheureusement, que sur le plan de la production des normes, il y a encore beaucoup de choses à être données. 30 à 40 minutes pour cet exposé. On aurait pu aller beaucoup plus en détail. Il y avait également beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. J'ai préparé beaucoup, beaucoup de choses, mais j'ai dû mettre en rouge le plus important, puisque encore une fois, on n'avait pas énormément de temps, même si 35-40 minutes quand même, c'est bien. J'espère en tout cas que quelques pistes ont été avancées, que quelques positions personnelles ont pu être saisies par l'Assemblée, que ces informations concernant le système de relations professionnelles, j'espère que ces pistes de réflexion qui ont été avancées, j'espère que ces positions personnelles qui ont été également avancées sont notées et j'espère que tout cela peut participer à lancer un débat sur l'historicité, l'actualité et peut-être les perspectives du système sénégalais de relations professionnelles. Et je voudrais terminer encore en remerciant très, très, très sincèrement le professeur Jérôme Porta pour cette invitation. Remercier mon maître, professeur Philippe Auvergnon, qui m'a permis encore une fois, il y a 20 ans, d'acquérir mes premières armes, mes premiers réflexes en tant que juriste de droit social, et vous remercier tous pour votre écoute. Je vous remercie. Merci.
Merci, cher collègue, pour cette grande gentillesse.